Comme tous les mardis, bien, nous allons prendre des nouvelles de la vie de l'Église en Bigorre. Et pour cela, nous sommes en compagnie d'Anne-Rose Jankovic. Bonjour Anne-Rose.
Bonjour Luc.
Alors je rappelle que vous travaillez pour le diocèse de Tarbes et Lourdes et que aujourd'hui vous allez traiter un thème d'actualité, ou combien d'actualité, de bioéthique avec notre invité Jean-Paul Pérez. Il est le délégué diocésain en question de bioéthique. Bienvenue à tous les deux.
Bonjour
Jean-Paul Pérez. Alors, après 4 journées d'examen, les députés de la commission spéciale ont adopté le projet de loi bioéthique, un projet de loi qui comportait initialement plus de 2000 amendements qui fera l'objet de débats à l'Assemblée nationale à partir du 24 septembre prochain. Alors, la grande question de ce projet de loi, c'est bien sûr la question de la PMA, la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et les femmes seules. Jean-Paul Pérez, sur cette question de la PMA, est-ce que les débats au sein de la commission spéciale ont fait un petit peu bouger les choses? De quoi est-on parti? Vers quoi nous dirigeons-nous?
De ce que j'ai pu voir, parce que j'ai regardé une séance où des associations, Mgr Dornelas était venu parler aux députés, de ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait dans le meilleur des cas une écoute polie de certains, respectueuse parfois, mais que globalement, je pense que les idées étaient déjà faites bien avant, et que nous sommes typiquement dans ce qu'on appelle une éthique procédurale, c'est-à-dire que il est prévu que des gens soient écoutés dans le cadre de débats. Donc cela a été fait, mais ça ne change pas en fait le fond de la question, et je pense que c'était utile que des gens puissent s'exprimer, mais ça n'a pas changé grand-chose sur la détermination des rapporteurs de la loi.
Donc on se dirige bien vers la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules. Ça c'était le projet initial et ça ne changera pas.
Oui, ça ne changera probablement pas du tout.
Quelles sont les autres grandes lignes de ce projet de loi bioéthique? Parce que alors, quand on a le nez dedans comme vous, ça peut paraître simple, évident, mais les termes employés sont quand même parfois assez spécifiques, en tous les cas très scientifiques, et c'est peut-être nécessaire de faire un petit point sur ce que prévoit vraiment cette loi.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on appelle cette loi de bioéthique, en fait, est une loi qui révise un certain nombre de codes, par exemple le code de santé publique, etc. Donc en fait, c'est un amalgame de notions, un amalgame de propositions qui vont impacter les différents supports du droit. Donc c'est pas une loi en tant que telle, c'est une loi qui porte sur un éventail, c'est une sorte de fourre-tout si vous voulez, où on parlera évidemment de la PMA pour toutes. On ne parlera pas de la GPA cette fois-ci, mais il faut bien comprendre que c'est comme un train qui passe dans une gare, si vous voulez, il y a le wagon de tête et les wagons de queue. Et donc le wagon de tête s'appelle la PMA, mais partis comme nous sommes partis, comme disait Alphonse Allais, passer les bornes, comme il n'y a plus de limite, il est à prévoir qu'il y ait encore des évolutions de la loi dans les années qui viennent. Et donc il y a une sorte de fourre-tout, ça parle de l'intelligence artificielle, je peux vous dire que ça parle aussi des greffes de biotope intestinal, donc si je vous dis ça, voilà, pour le commun des mortels, ça n'a pas grande importance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette loi va nous faire passer dans un autre monde. Clairement, un autre monde, nous étions déjà rentrés dans un monde fortement imprégné de libéralisme sur le plan économique, et là nous allons clairement passer dans un monde où le libéralisme ne sera plus que économique, mais sera aussi philosophique, éthique, etc., où ce qui prime c'est l'individu et non plus les personnes, ce qui prime c'est les relations entre les personnes qui sont de type contractuel et non plus des relations de type social telles qu'on peut le lire dans ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, par exemple. Et du coup, on va basculer dans un autre monde où, par exemple, la médecine ne sera plus tellement de la médecine, mais sera une sorte de biotechnologie qui est très performante, effectivement, mais cette biotechnologie sera au service de désirs, de souffrances, parce que n'ayant plus que des relations contractuelles entre nous, si vous voulez, un patient va voir un médecin pour une prestation auquel il aura droit.
Vous voulez dire qu'un patient devient un client? C'est ça que vous voulez dire?
Bon, c'est déjà quand même un peu le cas, hein, par endroit. Donc on se vit comme client, d'ailleurs, puisqu'on peut se faire refuser de se faire traiter non pas de tous les noms, mais au moins de sa maladie par certains médecins, parce que, voilà, on sait que dans certains, enfin moi qui connais un peu le monde de la santé, il y a eu la réorientation de l'activité de certains centres de santé, établissements de santé, au profit d'activités qui soient plus lucratrices, enfin lucratives, voilà. Donc on est dans un monde qui change complètement, et là il va y avoir un nouveau changement majeur qui va toucher les relations entre les hommes et les femmes, mais qui va aussi toucher la cellule primordiale, la cellule sociale primordiale qui s'appelle la famille, puisque la filiation va être complètement impactée, parce qu'aujourd'hui on parle de filiation par... dont un des signes est la transmission du patrimoine génétique. Mais aujourd'hui, la notion de paternité et maternité sera déclarative. Et donc, il suffira de se déclarer quelque part en mairie ou auprès d'un notaire, auprès de je ne sais pas qui, encore, pour dire je suis le père ou je suis la mère. Voyez. Et donc, finalement, au gré des volontés, des désirs, des problèmes, ça laisse à penser que...
Voilà. Ça, pour vous, ce sont les conséquences directes qui vont être visibles, palpables, dès que cette loi biologique sera votée.
ça ne va pas être immédiat, évidemment, puisque comme tout changement culturel, il y aura un peu de temps, si vous voulez, avant qu'on en perçoive l'impact sur notre propre vie, sur nos proches, etc. Mais c'est vraiment une ouverture qui est majeure. Parce que on ne sait plus aujourd'hui, on a du mal aujourd'hui à aborder la souffrance, à aborder les difficultés, si vous voulez, puisque comme nous sommes dans ce que le pape François, dans Laudato Si, au numéro 106, appelle le paradigme technologique. Mmh. Et donc, face à une difficulté, quelle est la réponse que l'on va apporter? On va chercher une réponse de type technique, de type technologique, si vous voulez. Et donc là, il y a indiscutablement des gens qui souffrent, des gens qui, face à un désir, qui ont du mal à corroborer avec le sens de l'existence humaine tel que les chrétiens peuvent le percevoir, dans le meilleur des cas. Face à cela, eh bien, ne sachant plus comment aborder, comment prendre en charge cette souffrance des personnes, eh bien, on pense que par des artifices législatifs, technologiques, etc., c'est une réponse à cette souffrance. Or, nous sommes dans un monde aujourd'hui, je ne dis pas qu'il est moins bien que celui d'avant et qu'avant c'était mieux, c'est pas ça du tout que je dis, mais c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une difficulté à prendre en compte la souffrance des gens, à les écouter, parce qu'on a à l'idée tout de suite une réponse de type technique ou technologique, ou bien comment créer un nouveau droit pour qu'il soit dans l'expression de cette souffrance, vous voyez, comme une réponse.
Alors, je voudrais qu'on revienne sur la loi et son contenu en disant un mot quand même de la recherche embryonnaire. Qu'en est-il exactement des prévisions de cette loi en la matière de recherche embryonnaire? Que deviennent aujourd'hui les embryons non utilisés et que vont-ils devenir quand cette loi sera passée?
Ben quand je disais qu'on change de monde, c'est que là, si vous voulez, l'embryon est-il une personne? Alors, il y a des philosophes qui peuvent répondre, des théologiens, etc. Mm-hmm. Ce que moi, je sais, c'est qu'avant, j'étais un embryon. Et que vous, Anne-Rose, vous étiez un embryon aussi. Donc, nous sommes tous des embryons retraités. C'est-à-dire qu'il y a quand même une continuité entre ce que certains appellent un amas de cellules et les personnes que nous sommes aujourd'hui. Avec... les disjonctions induites par cette manipulation entre le lien entre l'amour et la transmission de la vie, entre communion et fécondité, si vous voulez, eh bien, on aboutit à la production, pour certains, d'un matériau. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais pour aboutir à une grossesse par PMA, on estime qu'il faut environ la production de 17 embryons. Donc, sur ces 17 embryons, il y en a un certain nombre qui ont été congelés, un certain nombre qui ont été détruits. Alors après, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait des embryons qui sont congelés puisqu'ils ne servent à personne, paraît-il. Là encore, on est dans une vision utilitariste des choses. Et donc, comme toutes les lois, si vous voulez, elles évoluent. Et donc, par exemple, en 1994, il était clairement marqué dans la loi que le respect de la vie humaine, dès le début, était primordial. Mais après, en 2004, on constate l'introduction de dérogations à cette loi pour des projets thérapeutiques majeurs. dérogation sur l'utilisation des cellules embryonnaires, puisque c'est un peu le Graal pour les chercheurs, parce que quand vous pensez que vous-même, moi-même, monsieur à côté, venons uniquement d'une seule cellule, vous voyez, c'est vous dire un peu la capacité qu'il y a dans cette cellule. C'est pour ça que c'est un peu le Graal des chercheurs. Mais pour faire des études sur les cellules embryonnaires, il faut détruire un embryon. Mmh. Et donc, petit à petit, les portes sont ouvertes, les limites ont été repoussées. Au début, il n'était pas permis de détruire les embryons. Ensuite, il est permis de faire pour des maladies pour des maladies graves, de trifouiller les cellules embryonnaires. Et puis maintenant, avant, il fallait faire une demande. Maintenant, il faut faire juste une déclaration. Et il n'est même pas interdit, si vous voulez, de pouvoir croiser des cellules embryonnaires humaines avec des cellules animales, comme cela existe dans d'autres pays, par exemple.
Vous êtes médecin, Jean-Paul Pérez. Alors, on imagine que pour vous, la recherche scientifique, la science, c'est une discipline cruciale au service de l'humanité. Or là, on sent bien que la question posée, quand même, c'est jusqu'où peut-on aller ? La recherche scientifique doit et peut aller jusqu'où ? Quelle est votre analyse personnelle en tant que médecin là-dessus ? Et malheureusement, on sera obligé de terminer notre entretien. Donc c'est un peu votre mot de la fin.
Le mot de la fin. En tant que médecin, j'imagine que nous sommes là pour soigner, c'est-à-dire pour être au service des personnes. Manifestement, nous allons passer dans un autre monde où nous allons être des prestataires techniques de biotechnologie pour des personnes qui ne sont pas malades. Je schématise, je caricature évidemment. Parce que la notion d'infertilité, stérilité, etc. Est éminemment évolutive, on l'a bien vu.
Et il y a des vraies souffrances derrière.
Oui, il y a indiscutablement des souffrances.
Petite dernière question, parce qu'on va quand même évoquer le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. On vous a présenté comme le délégué diocésain aux questions de bioéthique.
Vous êtes bien aimable.
Précisément, quel est votre rôle en tant que délégué ?
Mon rôle, eh bien, c'est d'intervenir, par exemple, quand on me le demande. C'est de faire des formations, comme j'ai fait l'année dernière, au moment des états généraux de la bioéthique. Il y a eu trois soirées de formation sur le sujet du début de la vie, la fin de la vie, sur la réflexion. Et puis, c'est de me tenir au courant, évidemment, de ce qui se passe dans ce bas monde.
C'est-à-dire que les personnes du diocèse et au-delà qui nous entendent, qui nous écoutent ce midi, si elles veulent continuer la discussion avec vous, en savoir plus, creuser un peu cette question et peut-être se mobiliser aussi, eh bien, elles peuvent vous faire appel.
Bien sûr, comme je l'avais déjà proposé, je suis prêt à animer des groupes de réflexion, enfin des soirées de formation. Je pourrais me rendre disponible pour cela, bien sûr. Voilà.
Merci beaucoup Jean-Paul Pérez. Donc cette interview sera retrouvée sur le site internet du diocèse catholique65.fr dans le dossier dédié aux questions bioéthiques. Quel monde voulons-nous pour demain ? Dossier dans lequel on peut notamment lire la lettre de Monseigneur Nicolas Brouvet au sujet de la PMA.
Avec vous Anne-Rose, eh bien, on va feuilleter l'agenda du diocèse pour les jours à venir. On parlait des journées du patrimoine. Eh bien, vous nous le rappelez, elles ont lieu ce week-end et vous avez quelques suggestions de visite pour allier histoire et spirituel.
Oui, alors la première, c'est ce samedi 22 septembre, une soirée organisée à Notre-Dame de Garaison à partir de 19h30. Après avoir visité le sanctuaire, vous pourrez participer à une soirée dégustation fromage et vin du pays. Alors, réservation nécessaire, bien sûr, au 05 62 40 03 50. 05 62 40 03 50. Prix de la soirée 20€ au profit du sanctuaire de Garaison.
Alors on redonne le numéro pour les auditeurs, mais aussi pour Philippe Sepergaz. Oui, hein, 05 62 40 03 50. 05 62 40 03 50. On parle beaucoup du sanctuaire de Garaison ces jours-ci. On parle beaucoup, bien sûr, du sanctuaire de Lourdes. Mais il y a d'autres sanctuaires, Mario, dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes.
En effet, ces journées du patrimoine sont vraiment l'occasion de se plonger au cœur de la Bigorre terre mariale. Aussi, je vous invite à aller découvrir alors, les sanctuaires Notre-Dame de Piétat à Barbazan-de-Batte, la chapelle de Sescap à Bourisme, Notre-Dame de Poilhaune à Reims-Marsous, Notre-Dame des Has à Gêtre, tous ces lieux que vous connaissez. Et puis vous pouvez même pousser jusqu'à Notre-Dame de Bétaram. Ces lieux sont ouverts le week-end prochain pour les journées du patrimoine. Alors vous trouverez sur le site du diocèse toutes les infos pour vous y rendre et préparer votre visite. Et je vous invite vraiment, vraiment à plonger dans tous ces lieux qui sont les racines chrétiennes de la Bigorre.
Le 22 septembre, un rendez-vous autour des équipes Notre-Dame.
À la paroisse Saint-Antoine à Tarbes, ce dimanche 22 septembre. Donc c'est la rentrée des équipes Notre-Dame avec un accueil à 10h30, puis la messe à 11h, suivi bien sûr d'un apéritif offert et d'un repas partagé sur place. Après le déjeuner, il y aura des ateliers pour les couples jusqu'à 16h. Les enfants sont les bienvenus et ils seront pris en charge pendant les ateliers. pour les parents.
Et puis dimanche prochain, un rendez-vous désormais bien installé dans la vie du diocèse.
C'est le Forum des chrétiens du Haut-Adour. Comme chaque année, dès 9h, tous les services et mouvements du secteur pastoral du Haut-Adour seront présents sur le parvis de l'église Saint-Vincent à Bagnères-de-Bigorre. Objectif, se faire connaître. À 9h45, il y aura une conférence sur le thème du service par le frère François Bustillot. Et ensuite, à 11h, messe de rentrée avec les élèves de l'école Saint-Vincent. Et puis, encore une fois, apéritif et repas partagés.
On dit un petit mot sur le tout prochain, enfin qui approche.
Le pèlerinage de la Bigorre à Lourdes. Absolument. Et oui, le compte à rebours est lancé. C'est dans un mois, hein, donc il est temps de vous inscrire. Alors, je vous rappelle qu'il y a des programmes adaptés pour chacun. Alors, évidemment, il y a les hospitaliers de Bigorre qui seront présents avec les personnes malades. Mais il y a aussi un programme pour les jeunes hospitaliers, donc c'est-à-dire les troisièmes et les lycéens. Ces jeunes qui veulent se mettre au service des autres. Pour les jeunes collégiens de la 6e à la 4e, là il y a des veillées festives, marches, méchouis, processions, flambeaux, prières, ateliers, témoignages. Un programme vraiment tout à fait adapté à nos jeunes adolescents. Il y a un programme également pour les familles, car vous pouvez vivre ce pèlerinage du vendredi au lundi inclus, 4 jours à Lourdes en famille, avec des temps forts tous ensemble, enfin en famille bien sûr, avec tout le diocèse, mais aussi des temps particuliers pour les couples, les enfants sont pris en charge, tout est très bien organisé pour que les familles puissent vivre vraiment 4 jours de ressourcement à Lourdes.
Alors je vous précise que ce programme complet peut être trouvé sur le site internet du diocèse, le www.catholique65.fr, et puis les diocésains, les bigourdans vont recevoir tout prochainement le prochain bulletin diocésain qui est largement consacré à ce pèlerinage de la
Évidemment, Bigorre. C'est vraiment le rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer pour les Bigourdans.